BW. Droits et libertés.
En Afghanistan, les talibans ont commencé à négocier avec des représentants des autorités de Kaboul. D'abord, un échange de prisonniers en vue de passer ensuite à des pourparlers de paix, ce qui permettrait de mettre fin à une guerre sanglante et extrêmement coûteuse qui dure depuis près de 20 ans. Oui, mais voilà, les talibans, qui ont donc un pied dans la porte du pouvoir, pour ainsi dire, n'ont pas laissé que des bons souvenirs. Et les voir revenir au premier plan inquiète beaucoup d'Afghans, notamment les femmes. On en parle avec un chercheur d'Afghanistan dans ce magazine. Et puis en seconde partie, nous allons parler d'une femme en particulier, mais originaire de Namibie, elle. Une figure forte qui défend la mémoire et les droits du peuple Nama, victime au début du XXe siècle d'un génocide perpétré par les colons allemands. Sandrine Blanchard au micro, bonjour à tous. À vrai dire, les autorités de Kaboul n'ont pas vraiment eu le choix. Sans accord avec les talibans, pas de réconciliation nationale et donc pas de paix possible en Afghanistan. D'autant que le nom générique de taliban recouvre des réalités variées puisque s'en revendiquent plusieurs mouvements qui vont d'anciens soutiens d'Al-Qaïda à des nationalistes pachtounes ou encore des intellectuels qui ont été formés dans des madrassas du Pakistan, en passant aussi par des trafiquants d'opium et d'héroïne. Un petit retour en arrière cependant. En 1994, les talibans s'insurgent contre le gouvernement alors en place. Ils prennent le pouvoir par les armes en 1996 avec la prise de Kaboul, la capitale. Les talibans instaurent alors ce qu'ils appellent le régime de l'État islamique d'Afghanistan, qui reste au pouvoir jusqu'à l'intervention militaire américaine de 2001. Durant toute cette période, les talibans réduisent quasiment à néant les libertés individuelles, allant jusqu'à interdire aux femmes de sortir de chez elles, de travailler, d'étudier. La musique est interdite aussi, et les Afghans se souviennent bien des lapidations publiques qui avaient été alors ordonnées au nom d'un islam présenté comme pur. Aujourd'hui, les intellectuels du pays, les femmes, les jeunes aspirent à la paix et pour beaucoup aussi à une autre société moins liberticide. La situation de nombreuses femmes afghanes s'est sensiblement améliorée ces 19 dernières années. De plus en plus de petites filles sont scolarisées, des jeunes filles étudient, des femmes travaillent, parfois même à leur propre compte. Alors quand les États-Unis ont passé un accord avec les talibans à Doha, les espoirs d'un retour à la paix en Afghanistan ont été aussi accompagnés chez beaucoup de gens par la peur, celle de voir revenir les talibans et leur férocité au pouvoir. Alors pour comprendre un petit peu mieux les enjeux des négociations en cours et surtout celles à venir, est-ce que ça signifierait, du point de vue des droits des citoyens d'Afghanistan, ce retour au pouvoir des talibans éventuellement ? J'ai interrogé Karim Pakzad, c'est un ancien professeur à l'université de Kaboul et actuellement il est chercheur à l'IRIS à Paris.
La principale revendication américaine pendant les négociations de paix était que les talibans s'engagent à lutter contre l'autoterrorisme ou les terroristes qui pourraient mettre en danger des intérêts américains dans la région. Vous voyez, c'est-à-dire que les talibans, ils ne sont plus considérés comme des terroristes par les Américains, et même le président américain les a qualifiés comme d'excellents guerriers, vous voyez.
Donc, ce que vous nous dites, c'est qu'ils ont réussi à se réhabiliter aux yeux de l'Occident et surtout des Américains grâce à l'ennemi commun qu'ils ont avec eux, qui serait le groupe État islamique.
Oui, l'État islamique ou Daesh a crié en Afghanistan et que son mouvement était en contradiction avec un mouvement des talibans, qui est un mouvement plutôt fondamentaliste, extrémiste sur le plan religieux, mais nationaliste sur le plan politique. Voilà, c'est la raison pour laquelle les talibans n'attendaient pas vraiment un accord avec les Américains pour se battre contre Daesh ou contre l'État islamique, parce que l'État islamique ou Daesh menaçait la suprématie des talibans en Afghanistan ou leurs intérêts.
Alors, maintenant qu'ils sont devenus acceptables pour les Américains, qu'on les associe aux négociations, ça veut dire qu'ils peuvent à nouveau revenir au pouvoir, ne serait-ce que partiellement, au sein d'un gouvernement d'union nationale. Qu'est-ce que ça voudrait dire? Parce qu'ils n'ont pas laissé que des bons souvenirs au sein de la population civile. Le régime des talibans dans les années 90, c'était un régime très très féroce, notamment pour ce qui est des libertés individuelles, des droits des citoyens et notamment bien sûr des femmes.
Et surtout les talibans, ils n'ont pas changé vraiment sur le plan de leur conception de l'islam, leur fondamentalisme. Mais en même temps, c'est une réalité. Et solution politique, ça veut dire quoi? Ben, tout le monde le sait. Ça veut dire qu'ils vont se mettre d'accord, peut-être au début, pour la formation d'un gouvernement provisoire. Ils vont discuter sur la nouvelle constitution ou l'amendement de l'ancienne constitution. Ils vont discuter. Oh, voilà, vous voyez, c'est tout à fait classique. Vous savez, l'Afghanistan, c'est un pays qui vit 40 ans de guerre. La population est fatiguée de cette guerre et une majorité immense de la population soutient les négociations de paix avec les talibans. Mais évidemment, il y a aussi une génération des jeunes, des femmes, qui, notamment ceux qui ont été formés, éduqués, allés à l'université, etc., depuis 18 ans, évidemment, craignent de perdre leurs droits acquis. Mais en même temps, il y a les exigences d'une paix, la fin de la guerre. Vous savez, en Afghanistan, tous les ans, à peu près 20 000 soldats sont tués.
Et vous pensez que les talibans seraient prêts à faire des compromis là-dessus, sur les règles de vie en société ou alors est-ce qu'ils vont rester de fer parce qu'ils ont une position de force et ça peut entraîner un exode massif, peut-être de gens qui n'ont pas envie de retomber sous ce joug-là?
Depuis 2 ans que les négociations durent entre les Américains et les talibans, plusieurs délégations de la société civile afghane, des personnes politiques, non gouvernementales, etc., ils ont discuté avec les talibans de tout ce que vous dites. Or, en public, les talibans annoncent qu'ils ont changé, qu'ils n'ont pas la même vision sur les droits des femmes, par exemple. Aujourd'hui, ils disent que les femmes, demain, ont droit de travailler et d'aller à l'école, etc. Mais toujours, à chaque fois, ensuite, ils rajoutent dans le cadre de l'islam.
Dans le cadre de l'islam, voyez, c'est ça. Si elles respectent le droit islamique. Mais c'est vague.
Le problème, c'est que les talibans annoncent qu'ils ont changé sur plusieurs points concernant la vie de la société. Mais en même temps, l'immense majorité de cette partie de la population que je viens de décrire, ils n'ont pas confiance.
Merci beaucoup.
Merci,
au revoir.
Merci, au revoir.
Quand on voit Ida Hoffmann la première fois, elle n'a rien de particulièrement frappant. C'est une femme de 73 ans, à l'air concentrée et calme, et qui se présente avec beaucoup de politesse.
I am Ida Hoffmann, founding chairperson of the NAMA genocide discussion.
Je m'appelle Ida Hoffmann, c'est moi qui ai lancé la discussion. Je fais partie du comité du génocide du peuple Nama. Aujourd'hui, les Namas sont une communauté totalement détruite. Notre peuple connaît toutes les maladies sociales, les dysfonctionnements possibles et imaginables, parce que nous sommes des victimes. Dans le sud de la Namibie, on ne nous considère même pas comme des humains. Nous ne sommes rien. C'est le résultat de ce que nous ont infligé les Allemands et ça dure jusqu'à aujourd'hui.
Ida Hoffmann n'a pas toujours fait partie des meneurs de négociations, de ceux qui discutent maintenant avec le gouvernement allemand. Elle est originaire du sud de la Namibie, près de la frontière avec l'Afrique du Sud. Elle a grandi à Keetmanshoop. Jeune femme, elle a travaillé comme institutrice, puis dans une pharmacie et enfin dans un hôtel. Ensuite, elle s'est mise à militer pour l'indépendance de la Namibie. Ida Hoffmann a même fait de la prison pour avoir soutenu ceux qui avaient fait le choix de la lutte armée. Elle refuse d'évoquer cette époque au micro, mais ce dont elle est certaine, c'est que déjà, elle était consciente alors de son identité de Namibienne et de Nama.
Mon grand-père m'a amenée à m'engager pour la mémoire du génocide. J'y ai réfléchi pendant plusieurs années.
À la moitié des années 1980, Ida Hoffman ouvre un jardin d'enfants à Katutura. C'est un quartier du centre de Windhoek, la capitale. À cette époque, l'apartheid est appliqué aussi en Namibie et ce quartier était alors habité seulement par des Noirs.
After independence, 1990.
En 1990, après l'indépendance, j'ai décidé de réunir tous nos chefs traditionnels Nama. Ça s'est passé dans mon jardin d'enfants de Katutura. En 2006, ça c'est un souvenir fantastique, j'ai fait se rencontrer des Nama et des Herero. On s'est retrouvés chez moi pour discuter ensemble.
À partir de ce moment-là, Ida Hoffman a toujours été au premier plan lorsqu'il s'agissait de réclamer la restitution d'ossements ou de biens culturels spoliés par l'Allemagne durant la colonisation. Et depuis près de 20 ans maintenant, elle négocie avec le gouvernement de Berlin, l'ancienne puissance coloniale, sans flancher.
On ne peut pas étouffer les sentiments des personnes qui sont opprimées. Ces sentiments-là sont des bombes à retardement qui ont des répercussions catastrophiques. Le temps nous le prouvera. Les actes de barbarie qu'a commis l'Allemagne coloniale contre nous, nous les qualifions de génocide. Nous exigeons pour cela le paiement de réparations et des excuses officielles du gouvernement allemand.
And an official apology from the German government.
Pour Ida Hoffman, c'est seulement quand ces deux conditions seront réunies qu'on pourra envisager une véritable réconciliation entre l'Allemagne et la Namibie.
We will never rest.
Les Nama et les Herero morts ne trouveront de repos que lorsque ce sera fait.
And over Herero people.
C'est la fin de ce magazine. Merci à Yana Gent et Bernd Mouchborowska pour les sons. Merci aussi, bien sûr, à Karim Pagzad de l'IRIS pour l'entretien. Si vous souhaitez podcaster Droits et Libertés, allez faire un petit tour dans la rubrique Nos podcasts sur notre site internet dw.com/français. Rendez-vous la semaine prochaine et d'ici là, ne lâchez rien.